Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Bien, chers frères et sœurs, voici notre cinquième et dernière étape dans ce parcours de foi, vivre en ressuscité avec Marie. Après avoir médité la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, nous voici au sommet, Marie couronnée reine du ciel. Mais attention, ce couronnement n'est pas un éloignement. Il est la reconnaissance céleste d'un cœur humble, d'une femme toute donnée. Et cette gloire nous concerne, car elle est la promesse de notre propre vocation à régner dans l'amour. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 12. Aujourd'hui, nous aurons comme invité au cœur de cette émission le père Emmanuel Mvomo, chapelain du sanctuaire de Lourdes. Nous contemplons avec lui cette royauté maternelle de Marie à travers le quotidien de ce religieux et prêtre à la grotte de Massabielle. Merci à Enzo pour la collaboration technique pour cette émission. Eh bien, quand on pense au mot « reine », on imagine parfois pouvoir, faste, distance, mais Marie, couronnée de gloire, est à l'opposé de ces images. Marie ne devient pas reine parce qu'elle l'a demandé, ni pour avoir accompli des exploits humains. Elle l'est parce qu'elle s'est faite entièrement disponible à Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, verset 38, nous lisons « Voici la servante du Seigneur ». Qu'il me soit fait selon ta parole. » Les paroles même de la Vierge Marie dans le Magnificat. C'est le oui silencieux, le cœur fidèle dans les petites choses, la constance dans l'amour qui fait d'elle la mère du roi et la reine selon le cœur de Dieu. Saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Mater, disait « La royauté de Marie est une conséquence de son union à la royauté du Christ. Elle est reine parce qu'elle est totalement soumise à son Fils. Elle ne règne pas par autorité, mais par transparence au royaume. Elle est comme ce vitrail par lequel passe la lumière sans jamais l'arrêter. Et cette lumière, c'est le Christ, roi des rois. Eh bien, Marie est la reine des cieux, mais elle n'est pas distante de nous. Son cœur demeure auprès de ceux qui souffrent, doutent ou se sentent oubliés. Il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante, disait-elle dans le Magnificat, Luc chapitre 1er, verset 48. Elle s'est toujours tenue près des petits, des exclus, des pauvres. Et aujourd'hui encore, c'est aux enfants, aux malades, aux cœurs brisés qu'elle apparaît. Souvenez-vous de Fatima, Lourdes même, dans ces lieux d'apparition bien reconnus. Le pape François disait, Marie n'est pas une reine assise sur un trône doré, mais une mère qui porte nos douleurs. À Lourdes, elle ne fait pas de longs discours, Elle regarde, elle console, elle accompagne. Son trône est fait de tendresse. Son sceptre est la prière. Sa couronne est l'amour des simples. Eh bien, Marie est une reine qui intercède et combat pour nous. Le couronnement céleste de Marie ne la retire pas de la lutte humaine. Au contraire, elle est engagée dans un combat spirituel aux côtés de ses enfants. Dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er, nous lisons une femme revêtue du soleil et une couronne de 12 étoiles. Cette couronne, c'est l'Église. Les 12 tribus, les apôtres, donc nous aussi. Elle est reine de l'Église combattante, mère des vivants, veillant sur chacun de nous. Saint Louis-Marie Guillon de Montfort disait « Marie est terrible comme une armée rangée en bataille contre les puissances du mal. Dans nos luttes contre le péché, l'orgueil, la peur, Marie ne nous abandonne pas. Elle combat pour nous avec les armes de Dieu, la prière, la foi, l'humilité. Elle est notre avocate, notre médiatrice, notre protectrice. Et celui qui se place sous son manteau, aucun démon ne peut l'atteindre. Oui, je répète, celui qui se place sous le manteau de la Vierge, aucun démon ne peut l'atteindre. Eh bien, je m'arrête là pour recevoir notre invité du jour.
Grazie a plenum.
Voilà, nous sommes dans notre partie de cette chronique, de cette émission, l'invité du jour. Nous allons faire un tour à Lourdes. Lourdes, rien qu'à prononcer ce nom, nos cœurs s'ouvrent à la grâce, à la consolation. Là-bas, une jeune fille simple a entendu la voix de Marie. Et depuis, des millions de pèlerins viennent boire à cette source d'eau vive. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui vit cela au quotidien, un prêtre, un religieux. C'est le révérend père Emmanuel Vomo, chapelain au sanctuaire de Lourdes. Avec lui, nous allons découvrir le cœur maternel de Marie, mère des malades, des pauvres et des oubliés. Père Emmanuel, bonjour.
Bonjour, bonjour et merci pour l'invitation.
Voilà. Présentez-vous un peu à nos auditeurs et auditrices de Radio Présence.
Non, merci. Alors, je suis le père Emmanuel Vomo, originaire du Cameroun, religieux de la Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception et chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes déjà à la troisième année. Voilà, voilà rapidement ce que je peux dire.
Alors, pouvez-vous nous dire un peu ce qui vous a conduit à devenir chapelain à Lourdes?
Bon, être chapelain à Lourdes, c'est d'abord la réponse d'obéissance à la volonté des supérieurs et déjà à la volonté de Dieu. Mais je dois dire que personnellement, c'est un appel que je vis depuis ma tendre enfance. Toute ma vocation est liée à la Vierge Marie, que ce soit du point de vue de la dévotion, que ce soit du point de vue de la congrégation, les Fils de l'Immaculée Conception. Dévotion, je parlais de dévotion familiale, évidemment. Et surtout que ce soit du point de vue de mes activités et de mes études, donc du point de vue intellectuel, où j'ai fait un doctorat en mariologie. Donc vraiment, être à Lourdes, pour moi, c'est être à la maison, parce que toute ma vie, voilà, est liée à la Vierge Marie.
Eh bien, qu'est-ce qui vous touche le plus dans les rencontres que vous vivez ici, au sanctuaire, au pied de la Vierge à Lourdes?
Ça peut sembler étrange, mais ce qui me touche surtout à Lourdes, c'est les pleurs et les sourires. Les pleurs parce que à Lourdes, tout le monde se sent à la maison, tout le monde se sent chez la maman, et on est capable de pleurer, de se défouler, de se lâcher, ce qui traduit vraiment cette intimité que le dévot, le chrétien vit quand il est à Lourdes, je présume aussi dans d'autres lieux de pèlerinage de la Vierge Marie. Et les sourires, parce que voilà, Lourdes c'est aussi cela, c'est le lieu des guérisons, c'est le lieu des soulagements, c'est le lieu des joies. Et c'est pour cela que je dis, moi à Lourdes, ce qui me marque le plus, c'est cela, les pleurs et les sourires. Et je pense que c'est ce dont tout l'homme a besoin, avoir où pleurer et où retrouver le sourire.
Avez-vous un témoignage vraiment fort d'un pèlerin ou d'un malade à nous partager avec l'expérience que vous avez eu à faire ici?
Bon, il me vient comme ça un aux confessions, un Anglais venu accompagner sa femme, parce que selon lui, tel qu'il me l'a expliqué, chaque année, c'est l'un des deux qui doit décider où aller en vacances. Alors, cette année-là, c'est la femme qui devait décider, et elle a décidé que c'est Lourdes. Et même si lui n'était pas pratiquant, il a accepté parce que, voilà, c'est l'organigramme, c'est la décision, c'est l'ordre familial qui le voulait. Et du coup, lorsqu'il arrive à Lourdes, pendant que sa femme se confesse, voilà, il est assis là au couloir, il se gêne. Après un moment, il se dit, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais entrer, voir ce qui se passe là-dedans. Et il se retrouve devant moi. Et ce monsieur va m'avouer qu'il a fait 37 ans sans se confesser, mais je vous assure que c'était l'une des plus belles confessions que j'ai écoutées. Et celui-là, il est parti vraiment heureux, vraiment changé, vraiment converti. Et vous voyez, il est venu à tout hasard et il a été touché par la grâce. Voilà, et les exemples, il y en a, mais celui-là, il m'a toujours marqué.
Vous avez été témoin de tant de grâces et c'est ça, c'est une guérison intérieure puisque le sacrement de la réconciliation, c'est un sacrement de guérison aussi.
Justement, c'est pour cela que j'en parle, parce que quand on parle de Lourdes et qu'on parle de guérison, on parle de miracles, on s'attend d'abord à tout ce qui est physique. Je ne nie pas les miracles à Lourdes, il y en a. Mais je voulais noter celui-là, parce que nous avons besoin de quelque chose qui nous secoue, qui nous conduit à la conversion et finalement à la guérison intérieure, comme cet Anglais dans l'exemple cité.
Et ici à Lourdes, on parle du Magnificat, le mari qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth et sa présence qui réjouit le cœur. Vous sentez cette joie dont vous avez parlé déjà tout à l'heure?
Oui, cette joie, la joie de la rencontre, voilà, c'est la joie de la rencontre. La joie que l'on vit pendant les rencontres. D'abord, les 18 rencontres entre Bernadette et Marie, c'est des rencontres de joie. Quand elle lui donne rendez-vous, elle va à tout prix revenir. Et elle dira plus tard que, voilà, la grotte était mon paradis. Donc, elle vivait toute cette joie à la grotte. Et c'est cette joie que l'on peut voir chez les pèlerins qui viennent à Lourdes. Comme je disais tout à l'heure, ces personnes qui arrivent, parfois conscientes, parfois inconscientes, parfois douteuses, parfois pleines de foi, et qui vivent cette joie à communier avec la Vierge Marie à la grotte de Massabielle et à travers tout ce que le sanctuaire propose comme geste pour vivre sa foi. Ainsi, Lourdes devient vraiment ce lieu de joie et finalement, oui, un lieu pour chanter le Magnificat avec la Vierge Marie.
Il y a des personnes qui vous écoutent qui n'ont pas cette possibilité de faire cette visite, ce pèlerinage. Eh bien, quel message d'espérance vous pouvez leur porter, voilà.
D'abord, on peut porter ce message à deux niveaux. D'abord, au niveau spirituel. Voilà, le Seigneur est dans nos cœurs, la Vierge Marie est dans nos vies. Et nous pouvons vivre notre expérience avec elle où que nous soyons. Mais de l'autre côté, il faut quand même noter que Lourdes, le sanctuaire de Lourdes, a cette ouverture à permettre à ceux qui ne peuvent pas venir à Lourdes de célébrer Lourdes chez eux. Voilà pourquoi il y a des possibilités, des missions Notre-Dame de Lourdes à travers le monde, à l'intérieur de la France, évidemment, mais aussi dans le monde entier où, voilà, les chapelains peuvent se déplacer, venir dans nos paroisses, venir dans nos diocèses, selon que l'on reçoive une invitation, pour nous permettre de vivre Lourdes chez nous, sans avoir à voyager. Lourdes qui vient vers nous, au lieu que nous allions nécessairement vers Lourdes.
Alors, vous êtes un chapelain de ce grand sanctuaire, et Père Emmanuel, et quand les gens arrivent, c'est direction grotte, et la piscine, et puis la basilique, et on visite et on retourne. Comment est-ce que vous êtes organisé ici, vous les chapelains, discrètement à accueillir les pèlerins?
Oui, les chapelains au sanctuaire de Lourdes sont organisés justement à accueillir et accompagner les pèlerins à travers les célébrations eucharistiques, les processions, les confessions, une présence aux piscines pour accompagner spirituellement le geste qui est posé, la bénédiction des cierges, et le chapelet à la grotte, évidemment. Et ceci est possible en plusieurs langues. En français, en anglais, en espagnol, en italien, en irlandais, en allemand, et j'en oublie certainement, et toutes les autres langues d'ailleurs qui peuvent être présentes au sanctuaire de Lourdes. L'essentiel, c'est cela, la priorité, c'est le service du pèlerin. Le pèlerin qui arrive à Lourdes doit trouver des personnes capables de l'accueillir, de l'accompagner et de l'aider à vivre un bon pèlerinage. Ainsi, les chapelains sont donc organisés. Nous avons un planning au quotidien pour accompagner les pèlerins, que ce soit ceux qui sont en groupe, que ce soit ceux qui viennent individuellement ou en famille.
Père Emmanuel, nous allons nous quitter aujourd'hui parce que nous aurons l'opportunité de vous retrouver avec d'autres thèmes dans cette émission sur Radio Présence. Vous êtes au pied de la Vierge Marie, vous êtes un prêtre, vous êtes missionnaire et vous allez à la grotte tous les jours. Quelle émotion vous vient à l'esprit de faire cette expérience quotidienne?
L'émotion est toujours celle de la filiation, se sentir fils, un fils qui aime et un fils qui est aimé par la Reine du Ciel. Je pense que c'est l'émotion de tout chapelain qui vit et travaille et sert à Lourdes, mais c'est aussi l'émotion de tout pèlerin qui arrive au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Merci Père Emmanuel, nous serons très heureux de vous retrouver la prochaine fois.
Merci beaucoup, merci à vous et merci à vos auditeurs.
Merci au Père Emmanuel que nous retrouverons pour un autre rendez-vous et pour son témoignage et sa mission, ses différentes missions. Eh bien, comment vivre aujourd'hui sous le règne de Marie? C'est notre troisième partie après notre invité. Vivre avec elle comme enfant du royaume, être enfant de Marie, ce n'est pas une dévotion sentimentale ou accessoire. C'est une filiation spirituelle, réelle, enracinée dans l'Évangile. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 27, nous lisons cette phrase de Jésus au pied de la croix. « Voici ta mère. » Jésus meurt et dans ce souffle ultime, il confie son Église à Marie et Marie à l'Église. Cela signifie que chacun de nous peut entrer dans une relation filiale vivante avec elle, comme Jean, comme les apôtres après la résurrection. Sainte Mère Teresa de Calcutta disait « Si vous voulez aimer Jésus, aimez Marie. Elle vous le montrera, elle vous le donnera. » Vivre sous le règne de Marie, ce n'est pas marcher seul, c'est lui parler, lui confier nos journées, l'écouter dans le silence du cœur et lui laisser la liberté de nous guider. Oui, laisser Marie régner en nous. Ce règne commence dans notre cœur. Quand nous laissons Marie habiter nos pensées, nos choix, nos réactions, elle façonne en nous la douceur, la patience, la paix intérieure. Saint Maximilien Marie Kolb, cet apôtre de la dévotion mariale, écrivait « La vraie dévotion mariale, c'est permettre à l'Immaculée de régner totalement sur notre volonté. » Eh bien, cela ne veut pas dire perdre sa liberté, non. Cela veut dire se laisser aimer, guider, purifier. Car Marie ne prend jamais la place de Jésus. Elle le met au centre. Elle nous rend plus chrétiens. Vivre sous son règne, c'est accueillir ses vertus dans nos vies. Sa foi tranquille, son obéissance amoureuse, son regard qui ne juge pas, sa force dans les épreuves. Le Christ n'a pas été couronné pour dominer, mais pour servir et sauver. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17, nous pouvons lire ceci, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Ce que Jésus reçoit du Père, il veut le partager avec nous. Et Marie, première à entrer dans cette gloire, nous y entraîne. Le pape Benoît XVI disait, Marie, dans la gloire, nous montre que la grandeur ne consiste pas à se faire servir, mais à servir. Vivre avec elle, c'est donc servir dans l'ombre, comme elle à Cana, offrir ses blessures, comme elle au pied de la croix, espérer contre toute espérance, comme elle au Cénacle. C'est dans ces choix concrets que nous participons à la royauté du Christ, non pas demain, mais dès aujourd'hui, dans notre manière d'aimer, de pardonner, de persévérer. fini. Chers frères et sœurs, ce rendez-vous d'aujourd'hui, Marie a reçu une couronne, non pour elle seule, mais comme signe et promesse pour nous. Elle est la reine des humbles, la reine des serviteurs, la reine de l'espérance. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Vous reconnaissez là les béatitudes de Matthieu. Marchons donc avec elle pour apprendre à régner comme Jésus par le don de nous-mêmes. Et un jour, couronnés par l'amour, nous entrerons dans cette gloire où elle nous précède. Marie, notre mère, intercède pour nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Merci à vous, merci à Enzo, de l'autre côté de la baie vitrée, et à la prochaine.